Merci infiniment pour ce parcours
à 16 ans,
à 16 ans pour le dire, large et complet, qui s'achève à l'orée des choses qui seront vues plus tard dans le parcours des auditrices et des auditeurs. Je me permets d'ouvrir le feu des questions qui sont sûrement nombreuses par une question notamment. Vous avez fortement montré l'intrication de la religion, enfin des cultes monothéistes dans la vie quotidienne, dans la pratique, dans la cité. Également, en préalable, vous avez beaucoup parlé de récits et le lien fort avec la poésie, expliquant que c'était des forces de parole en fait performatives. Je crois même que vous avez dit c'est au moment où c'est chanté que ça devient performatif justement. Et est apparue à un moment la notion d'oracle,
oui,
que j'ai évoqué deux fois. Quelle est la place de l'oracle dans ce système global de cité, d'action, de récits poétiques, narratifs,
oui,
performatifs? Justement, comment l'oracle s'insère là-dedans? Quel est son rôle?
Alors, l'oracle est un lieu qui se veut ouvert. Les oracles ne sont pas des oracles de cité, par exemple. Les oracles veulent toujours se situer à un niveau qui leur permet d'être ouvert à la consultation du plus grand nombre. Il y a des oracles de dieux variés, Apollon très souvent, mais aussi Zeus et d'autres. Et on connaît les grands oracles archi-connus comme Delphes, mais il y en a beaucoup d'autres. Et donc la fonction des oracles, c'est un peu un rôle régulateur dans la mesure où on les consulte pour un tas de choses, et pour beaucoup de choses, aussi bien depuis les demandes les plus humbles, parce qu'on a trouvé dans certains sanctuaires des questions, les questions posées aux oracles, ou les réponses données par les oracles avec la question, et sur des lamelles de plomb, des choses comme ça. Et donc on peut très bien avoir des questions du genre si j'épouse une telle, est-ce que j'aurai de beaux enfants? Et le dieu répond oui, bien sûr, j'épouse. Voilà. Ou est-ce que je fais bien d'acheter ce lopin de terre? Le dieu répond oui ou non, généralement il répond oui d'ailleurs. Donc ça peut être des questions extrêmement pragmatiques, très concrètes, au quotidien. Et puis ça va ensuite jusqu'aux très grandes consultations. Alors, les cités envoient des délégations aux oracles, parce que, ou les rois, enfin, ils disent, mais voilà, est-ce qu'il faut entrer en guerre? Est-ce que c'est une bonne chose d'entrer en guerre contre maintenant? Et le dieu va répondre peut-être non, il vaut mieux éviter d'entrer en guerre maintenant. Alors, ça peut être pour différentes raisons, mais donc des questions qui touchent à la politique, vraiment. Et souvent, d'ailleurs, beaucoup aussi, on va consulter les oracles, et beaucoup l'Apollon de Delphes, quand il s'agit d'introduire des réformes religieuses, une nouveauté religieuse, de dire on va modifier la façon dont on fait tel ou tel sacrifice. On ne le fait pas sans consulter l'oracle d'abord, parce qu'il faut que le dieu donne sa sanction. Donc l'oracle est vraiment un élément qui travaille, ce sont des oracles qui travaillent beaucoup, et qui, d'une certaine façon, alors je ne pense pas, on a dit que parfois les oracles étaient guidés politiquement, etc. Ça, c'est très difficile à dire, à prouver, etc. On a une idée plus précise des oracles, les humbles, les demandes humbles, que les grandes consultations politiques, parce que les grandes consultations politiques ont été rendues souvent sous une forme littéraire un peu aménagée, un peu modifiée. Et du coup, on ne sait pas exactement quelle était la question posée, ni quelle était vraiment la réponse du dieu, parce que tout ça a été réécrit après. Mais il est certain que les oracles jouent, parce que souvent, ils ont quand même une importance assez considérable, je pense, dans tout ce qui concerne l'organisation de la vie sociale, politique et religieuse, parce que chaque fois qu'on va modifier quelque chose, qu'on va introduire une nouveauté politique, avoir une innovation dans tous ces domaines-là, il vaut mieux consulter l'oracle avant.
Un rôle de médiateur,
tout à fait. Oui.
Merci.
Vous avez expliqué qu'il fallait éviter toute interprétation téléologique, que le polythéisme n'était pas un passage nécessaire vers le monothéisme. qu'est-ce qui s'est passé pour que le polythéisme disparaisse?
Ouh, alors là, vous me... il faudrait peut-être une autre conférence pour répondre à cette question. D'abord, je ne suis pas sûr que le polythéisme ait disparu. Il s'est transformé, il a muté, à mon avis, il est réapparu sous d'autres formes. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment mort, le polythéisme. Et pourquoi est-ce qu'il a changé? Je dirais que quand vous prenez la société méditerranéenne au IIe siècle, hein, vous avez encore une société stable, un polythéisme très 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 vivace. Dans le monde grec, il y a beaucoup de décrits concernant les cultes, les récits, les mythes, etc. C'était toujours très vivant. Hein. On a un voyageur, Pausanias, qui traverse la Grèce au IIe siècle, il montre que s'accordent des pratiques extrêmement vivantes. Il est évident que ce qui a beaucoup joué dans la transformation globale des choses, c'est plutôt le IIIe siècle, la grande crise du IIIe siècle, qui a profondément ébranlé l'ensemble du monde romain, y compris le monde grec, mais surtout le monde romain, et qui a conduit les empereurs eux-mêmes à rechercher de nouveaux appuis religieux, en quelque sorte. D'où l'énothéisme solaire que je mentionnais tout à l'heure. C'est une initiative des empereurs romains pour essayer de consolider un système. Et à ce moment-là, d'ailleurs, on commence à voir apparaître une autre conception de la religion qui est plus un système de croyance qu'un système de pratique.
Sans me substituer à vous, en aucun cas, je crois qu'on peut passer de la religion des cités de la Grèce à une religion d'État à Rome, et que ensuite cette religion d'État s'est encore dévoyée avec la déification des empereurs. Et puis on dit aussi qu'à Rome, à la fin, donc vers le siècle zéro ou le premier siècle, il y avait tellement de temples à Rome avec des dieux différents qu'il y avait un temple dédié au dieu inconnu, et que Paul, je crois, dit: mais ce dieu inconnu qui est déjà prévu à Rome, moi je viens vous dire que c'est le Christ. Et comme ça, et le passage difficile avec les persécutions, etc. Et puis l'autre aspect tout à fait différent, pour répondre tout à fait à votre affirmation, le polythéisme n'est pas une préparation, il est bien vivant. C'est que si on avait le temps, on parlerait aussi du polythéisme hindouiste,
oui,
qui est totalement vivant. Il suffit de se rendre une fois dans ce pays pour s'en rendre compte.
Bien sûr. Mais là, c'est un peu éloigné de mon...
Mais
c'est la prochaine conférence.
Je vous le reproche.
Vous avez parlé de cultes qui pouvaient se faire dans le privé, dans les familles. Est-ce
oui.
qu'on sait sous quelle forme ces cultes étaient pratiqués? C'était des sacrifices? C'était des formes de prière?
Oui, c'était plutôt... Alors, c'était des formes simples. Il y avait un autel au Zeus du foyer, il y avait un autel à Hestia, et on pouvait faire des offrandes très simples, plutôt végétales, il n'y a pas de sacrifice sanglant, pas dans la maison, mais des libations, des offrandes de liquide, d'offrandes de végétales, de gâteaux, de choses comme ça, sur l'autel d'Hestia. On faisait brûler ça sur l'autel d'Hestia, et c'était ce genre de pratique très simple.
Ouais, donc ce sont des gestes, et
ce sont des gestes.
C'est pas une espèce de forme de prière.
Ah ben, le geste peut être accompagné par une forme de prière, dans la mesure où on peut dire à la divinité, je t'offre ceci, je te demande de bien vouloir protéger. On peut adresser une prière, bien entendu, la forme de relation rituelle de la prière est toujours possible. Dans toute communication avec les dieux, dans tout sacrifice, oui. Oui, bien sûr.
Vous avez évoqué le fait que les mythes n'avaient pas de... Ça n'était pas des dogmes, ça n'évoquait pas des règles, que les dieux étaient presque des compagnons, des accompagnateurs des hommes, même des commensaux à un certain moment, et puis cette commensalité s'est séparée, mais... finalement, à quoi, si ces mythes ne fournissent ni règles, ni modalités de vie, ni impératifs, ni espérance, ni mysticisme, pourquoi est-ce que...
Alors,
ils ont prospéré si longtemps, et ils sont encore très ancrés, y compris dans nos cultures contemporaines. Si on connaît simple récit ou des histoires, sans mystique, sans...
Oui. Je ne dirais pas de mystique, parce que c'est introduire encore une autre dimension. Mais ces récits ont un sens.
Ils ont un sens.
Ils ont un sens, ils portent quand même une certaine... ils portent toute une série de représentations sur l'histoire des dieux, l'histoire des hommes, le lien entre les hommes et les dieux, la façon dont le monde s'est construit. Enfin, ils sont porteurs de toute une représentation du monde. Hein.
Oui, chacun à leur façon. Est-ce que c'est une exemplarité ? Est-ce que c'est une règle ? Puisque ça n'est pas un dogme.
C'est pas une règle, non. C'est pas une règle parce que la notion de règle, il y a des règles. Les règles, elles sont définies par les limites que Zeus a imposées à l'homme. Hein. Zeus a dit voilà, c'est comme ça. Hop, voilà les limites de la condition humaine. Et l'homme donc doit respecter les limites de la condition humaine, et c'est ça les règles, et bien agir. La règle, il y a évidemment une règle fondamentale, qu'il faut bien agir envers ses proches et envers les dieux. Voilà, bien agir envers les dieux, c'est la règle première, parce que sans cela, évidemment, on peut rien bâtir. Donc il y a des sortes de règles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas un énoncé je dirais, de type moral ou mystique qui accompagne, enfin en tout cas pendant longtemps. Hein. Ou sinon sous une forme extrêmement vague, extrêmement générale. Après, on pourra trouver, chez certains auteurs, chez certains poètes, comme Pindar, on pourra trouver quelque chose qui ressemble plus un peu à une approche un peu morale de certaines choses, en disant, oui, voilà, ceci s'est passé parce que le héros en question a mal agi pour telle ou telle raison. On pourra trouver des choses, des considérations morales de ce genre. Mais ce n'est pas la fonction première de ces récits. Et si longtemps survécu, c'est parce que précisément, je pense qu'il véhicule une représentation de la vie des hommes et de la vie des dieux, enfin, du monde des hommes et du monde des dieux, qui garde une certaine fascination, qui a une certaine force, hein, même dans un contexte culturel extrêmement différent.
Dans votre exposé, vous avez dit au départ qu'il n'y avait pas de religion dans la Grèce antique, mais vous avez quand même souvent utilisé le terme religion, en disant la religion en Grèce, elle est civile.
Oui, comme je l'ai dit.
Parce
oui.
que vous.
Il est très difficile de ne jamais utiliser le mot religion. On est bien forcé un peu de temps en temps, mais en ayant quand même précisé en préalable que c'est un mot qui ne correspond pas à une catégorie grecque. Ça. Mais on est obligé, dans toute l'étude du monde grec, on est parfois obligé d'utiliser des catégories qui ne sont pas des catégories indigènes, qui ne sont pas des catégories grecques pour parler du monde grec, parce que sinon, il y a un moment, on n'arrive plus à exprimer ce qu'on veut dire. Donc voilà, mais il faut bien quand même. Je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il n'y avait pas de concept équivalent à religion dans.
Est-ce que vous pensez, du coup, que la société grecque, est-ce qu'elle n'aurait pas commencé à inventer la notion de laïcité ? Et sur la régulation un peu de la cité, sur les évolutions, est-ce qu'il n'y a pas des rapprochements hein, qu'on pourrait faire aujourd'hui autour de la question de la laïcité ?
Non, je ne dirais pas ça, parce que, comme je l'ai dit, la pratique cultuelle est étroitement entrelacée, étroitement imbriquée à la vie sociale, à la vie politique. Parce que le religion n'est pas mis à distance, en quelque sorte, de la vie publique et de la vie individuelle. Au contraire, il n'est pas non plus omniprésent, c'est pas ça. Mais disons que cette imbrication rend difficile de parler de laïcité au sens où on l'entend, en tout cas actuellement, parce que. Avant qu'une armée parte en campagne, on ne va plus chanter une messe solennelle à Notre-Dame de Paris. Alors que les Grecs, oui. Avant que l'armée parte, on faisait des sacrifices et toutes sortes on a procédé à toutes sortes d'activités culturelles pour le succès de la campagne, vous voyez.
Mais quand vous parlez des évolutions, en gros, la cité, elle disait que c'était. Elle s'occupait uniquement d'octroyer les terrains, elle ne rentrait pas dans l'aspect privé.
Dans ce cas-là, elle n'entrait pas dans des considérations, disons, d'interprétation religieuse. Voilà, c'est ça. Mais quand il s'agissait de gérer les cultes, là, la cité était très présente.
C'est en ça que je posais la question sur les prémices de la laïcité, quand même. Bah, c'est ce que je... Oui. Voilà, c'est ce que, ça m'a fait penser en tout cas à ça. Mm.
On va trouver ça chez les Perses aussi, avec comment s'appelle le cylindre de... Alors, j'ai un trou, mais il y a dès moins 500, il y a un cylindre qui est gravé par un empereur perse qui explique que toutes les religions sont bienvenues chez lui.
Oui.
Il n'y a pas de religion. Mais, enfin, ouais.
Une question qui se relie tout à fait à celle-là. Quelle est la place pour les non-croyants? Dans une religion civique, y a-t-il des non-croyants?
Alors, non, il n'y a pas de non-croyants parce qu'il n'y a pas de croyants, je sais ce que je veux dire. Non, il n'y a pas de non-croyants au sens... Il n'y a pas au sens là. Vous avez des courants, comme je l'ai dit, l'orphisme peut être comparé à des non-croyants, non pas parce qu'ils ne croient pas, mais ils croient à quelque chose de totalement différent, et donc ils sont complètement en dehors de la vie sociale et politique de la cité. Et puis, alors vous avez des expressions, alors de rejet chez certains philosophes, chez certains penseurs à l'époque hellénistique, qui disent les dieux, tout ça, c'est de la foutaise, enfin, c'est n'importe quoi. Vous avez le mouvement évémériste, évémère, un penseur du IIIe siècle, qui dit mais les dieux, ce ne sont que des humains qui ont été. Qui ont accompli de grandes actions et qui ont été portés au rang de Dieu. Mais les dieux en eux-mêmes n'existent pas. Oui, il y a eu des penseurs, qui ont affiché effectivement une sorte de rejet en bloc de tout le système de pensée polythéiste. On peut appeler ça, si on veut, des non-croyants, mais en même temps, le mot croyant. Vous comprenez que pour moi, je n'ose pas trop l'utiliser, parce que ça implique une autre attitude mentale.
C'est les non-faisants.
Oui, bien sûr, oui, il y en a eu. Oui. Mais plus à titre individuel.
Est-ce que le lieu commun, un petit peu, qui dit émergence des monothéismes dans le désert, polythéisme dans les villes, en lien avec la complexité de l'organisation sociale, a quelques véracités pour vous?
C'est la première partie de la phrase qui me pose un problème.
Émergence
des monothéismes dans le désert, parce que...
Tandis que ce sont des religions de désert.
Oui, ouais.
Judaïsme, christianisme, islam...
Le christianisme, pour moi, est une religion urbaine. Hein. C'est une religion de milieu urbain, complètement.
C'est déjà dans un lieu urbanisé.
Après, le monothéisme... Le monothéisme juif, le monothéisme en juif, ce qu'on appelle le monothéisme hébraïque ou juif, on sait très bien qu'il s'est mis en place de façon extrêmement progressive, entre l'expérience du désert qui est racontée dans la Bible et la véritable mise en place d'un monothéisme effectif dans le royaume d'Israël, de Juda, il s'est passé des siècles. Hein, il s'est passé des siècles. Et en réalité, on voit très bien que les choses se sont... voit que dans le royaume d'Israël, dans le royaume de Juda, jusqu'au 4e, 3e siècle, on a encore des traces très vivantes de polythéisme, de culte totalement autre que celui de Yahvé. Hein, donc il faut être prudent. Quant au monothéisme islamique, là, alors ça, je sais, c'est pas du tout ma partie non plus, mais... est-ce que c'est le désert, est-ce que c'est la Mecque, c'est les mecs médines sont des carrefours commerciaux, plus que des...
Est-ce qu'il y a eu à cette époque une contestation par le pouvoir politique de l'emprise des dieux sur la société? Parce que vous avez parlé des citoyens, vous avez parlé des dieux, mais est-ce que le pouvoir politique à un moment a pu se sentir concurrencé, ou est-ce qu'il a toujours bien vécu avec ce polythéisme?
Pas du tout, parce que le pouvoir politique, ce sont les citoyens. Ils sont eux-mêmes créateurs de leur propre... ils sont eux-mêmes dans ce système, ils construisent ce système, ils le gèrent. Et donc il n'y a pas de distinction entre société civile, autorité politique. Les autorités politiques sont des citoyens qui assurent les charges de la cité pendant un an ou cinq ans, et... donc il n'y a aucune distanciation, si vous voulez. Et donc non, les dieux sont là pour aider la cité et ne concurrencent jamais les autorités politiques.
Mais dans le même sens, quelle pouvaient être les motivations de ces familles qui ont instauré un culte d'un autre dieu. Par exemple, à Athènes, c'était des motivations spirituelles ou politiques, ou est-ce qu'on le sait encore?
Alors ça, c'est très difficile à savoir. C'est très difficile à savoir. L'introduction de nouveaux cultes dans une cité, ça peut répondre, dans certains cas, à l'installation d'un groupe d'étrangers qui vient et qui demande à pouvoir instaurer son propre culte parce qu'ils sont installés de façon permanente dans le territoire de la cité. Donc ça, c'est une chose. Après, les motivations peuvent être très variées. Et il n'est pas toujours facile de le comprendre. Si je reprends l'exemple d'Asclépios que j'ai évoqué, il y a certainement plusieurs éléments imbriqués. D'une part, le sanctuaire, le culte d'Asclépios a été introduit à Athènes quelques années après la grande peste, la grande épidémie qui avait causé des ravages parmi les Athéniens au début de la guerre du Péloponnèse. Il y avait une épidémie assez terrifiante, donc les Athéniens avaient perdu beaucoup de monde. Quelques années après, dès que la paix est faite, on fait venir le culte d'Asclépios. Donc il y a peut-être un lien avec ce problème de la santé. Parce que Asclépios, c'est un dieu guérisseur, c'est un dieu médecin. Donc il y a peut-être un problème avec un lien avec ça. Il y a aussi le fait que Asclépios a été introduit à partir d'un sanctuaire, d'une cité, qui, pendant la guerre du Péloponnèse, avait été l'adversaire d'Athènes. Et juste après la conclusion de la paix, on fait venir le culte. Donc il y a un geste aussi de pacification dans ce transfert de culte. Donc il y a peut-être toute une série de mobiles, de motivations qui ont pu jouer, qui peuvent expliquer l'intérêt porté au dieu Asclépios à ce moment. Mais souvent on en est réduit aux conjectures, parce qu'on n'a pas les explications.
Je suis en train de comparer le polythéisme et le polythéisme polynésien. Moi, je parle de polythéisme polynésien parce que nos ancêtres croyaient à des dieux, des propres dieux, le dieu de la terre, le dieu de la mer, le dieu de la guerre, et je suis en train de voir. Et nous avons des cités, des sanctuaires propres dans chaque vallée, où chaque cité prie leur dieu. Et puis comparé avec le polythéisme d'ici, moi je pense qu'il n'y a pas tellement de différence. C'est à la vie, à la cité, à son culte, jusqu'à l'arrivée des missionnaires anglais, missionnaires, et puis il y a tout le bouleversement, l'évolution, et puis il ne faut plus croire à ces dieux-là. Il faut croire au dieu du monothéisme. Donc, le monothéisme il existe, mais le polythéisme il existe toujours chez les Polynésiens. Donc, quand ils vont à la pêche, ils invoquent leur dieu, dieu de la pêche, dieu de la terre. Il y a un symbole dans la terre, il faut retourner le symbole pour avoir du poisson. Ils auront du poisson, c'est sûr. Et maintenant, les missionnaires, ils ont dit il ne faut plus utiliser ça. Et les sanctuaires et les cités, maintenant, ils ont changé. Ils ont construit des temples sur les sanctuaires, c'est-à-dire sur les cailloux. Ben, maintenant, on construit les temples, on construit les églises, que ce soit protestant ou catholique.
Oui. Oh, mais il y a sûrement des points de comparaison très intéressants, oui, dans tous les systèmes polythéistes. Oui.
Après, il n'y avait pas d'hierarchie entre les dieux. Enfin, je pense à Zeus, qui était quand même considéré comme le dieu. Enfin, c'était plus fort. Il avait un pouvoir quand même incroyable par rapport aux autres. Parce que vous disiez qu'il y avait un aspect combinatoire. Hein. Il n'était pas que Aphrodite, que la
Lune, ouais, oui.
Mais il y avait quand même une hiérarchie. Le premier dieu, le grand dieu, enfin, j'ai toujours entendu que c'était Zeus.
Bien sûr. Oui,
vous semblez dire tout à l'heure que c'était les Romains qui avaient apporté cette espèce de hiérarchie plus forte entre les dieux.
Non, c'est quand je parlais d'énothéisme. Mais c'est un mouvement très particulier de l'Empire, à l'époque de l'Empire romain, où effectivement on prend un dieu et on considère que ce dieu est le dieu qui n'abolit pas les autres dieux, mais il est considéré comme le principe de tous les autres dieux. H-E-N-O-théisme. Et alors, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, Zeus, bien entendu, Zeus est le dieu souverain. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais ce que je disais, c'est que la hiérarchie des cultes, c'est-à-dire la hiérarchie des fêtes, des sanctuaires, de l'organisation de la vie religieuse dans les cités, etc., ne reflète pas nécessairement cette hiérarchie-là. Oui, bien entendu, Zeus est le dieu souverain, c'est de lui que tout dépend. Voilà, Apollon à Delphes ne peut dire des oracles que parce qu'il a reçu de Zeus le privilège de lire dans la pensée de Zeus. C'est ça qui lui permet de donner des oracles, donc il découle de cette façon. Mais à Delphes, c'est Apollon qui est honoré. C'est lui qui est le maître du sanctuaire, et pas Zeus. Donc tous les dieux ont leur fonction et ont leur façon d'être, leur façon d'agir. Et selon les cités, on verra, comme je l'ai dit, que telle ou telle divinité va être davantage... mise en avant, va recevoir un sanctuaire plus important, des fêtes plus importantes, des sacrifices plus importants, va devenir le point de ralliement un peu de la société, mais parce que là, dans ce coin de terre, dans ce territoire, les légendes locales, l'histoire locale fait que c'est cette divinité-là qui exerce la plus grande influence par rapport aux autres dieux. Mais encore une fois, je n'entends pas, cette hiérarchie des cultes n'abolit pas la hiérarchie du panthéon, elle montre que tous les dieux en fait ont des possibilités de développer une action particulièrement importante dans tel ou tel secteur.
Merci.
Merci beaucoup, monsieur le doyen.
Merci à vous.
Merci.